C'est le train de la vie qui nous emporte. Le voilà qui s'avance et met nos sens en effervescence. Une avancée irrésistible, un mouvement sans fin. L'élan vital en quelques notes, la pulsation fondamentale. La vie, tout simplement. Cramponnez-vous au bastingage, voici l'essence du swing, de ces essences aux parfums enivrants qui font tourner les têtes et libèrent les corps car ils pénètrent tous les sens. Voici l'essence du swing. Du swing dans tous les sens. Les notes incisives et tranchantes décochées par Mickey Baker pour annoncer une déferlante de swing qu'il dynamise de bout en bout. Par son soutien permanent, il élargit une assise rythmique haute en couleurs sonores et riche d'inventions mélodiques. Grâce à l'amplification électrique, la guitare est désormais omniprésente, elle surligne et commente, ouvre et ferme les interprétations. Véritable pilier de l'orchestre, l'instrument est devenu incontournable. À partir de 1945, Louis Jordan ouvre à la guitare électrique un espace dont vont s'emparer des musiciens exceptionnels. C'est à trois de ces guitaristes que l'émission d'aujourd'hui est consacrée, les bien nommés Guitar Killers. Vous êtes avec Mr. Lucky pour votre heure mensuelle du swing, les sens du swing dans tous les sens. En 1956, cet arrangement de Caldonia porte à un haut degré de réalisation le concept développé par Louis Jordan à partir de 1938, alors qu'il venait de quitter le grand orchestre de Chick Webb, où il accompagnait une toute jeune fille nommée Ella Fitzgerald. Saxophoniste alto et chanteur, il enregistre ses premiers disques avec un orchestre qu'il emprunte à Jesse Stone, haute figure du jazz du Middle West dans les années 30, cofondateur des disques atlantiques dans les années 50 et auteur de l'énorme tube qui allait lancer le rock and roll, Check Rattle and Roll, nous avons déjà écouté dans l'émission. À New York, à la fin des années 30, Jesse Stone faisait des arrangements pour Chick Webb et avait croisé le mélange détonnant de swing et de blues au sein de son orchestre, les Elks Rendez-vous Band, rendez-vous en français dans le texte, une petite formation qui jouait au bar du même nom, le bar du Rendez-vous des Élans, sur la 52e rue. Louis Jordan a gardé ce nom pour ses premiers enregistrements où son chant s'inspire de celui de Jesse Stone dans des arrangements hérités de ceux des big bands avec des riffs dévastateurs. Ce qu'il perd en masse sonore avec sa petite formation, il le gagne en intensité rythmique et en investissement de soliste surpuissant. Avec son Timpani Five, le nouveau nom qu'il donne à son orchestre, Louis Jordan met en œuvre la formule qui gagne, et en tant que chanteur, et en tant que chef d'orchestre. Mais il se révèle aussi un animateur hors pair qui, en injectant le swing dans le blues, crée une musique explosive dont la guitare électrique est désormais partie prenante. En l'intégrant à sa formation en 1945, il rajoute à sa section rythmique un élément supplémentaire capable de rivaliser avec les instruments avant, les sax et les trompettes. Elle va tisser avec le piano des entrelacs mélodiques et rythmiques qui vont en faire une composante essentielle de son groupe. Aussi vrai que les Trois Mousquetaires étaient quatre, le Timpani Five comprendra bientôt 6 puis 7 musiciens, un véritable volcan de swing qui déverse de la lave en fusion d'où jaillissent les notes abrasives de la guitare. Nous allons écouter maintenant, dans Kate Stretchin', un bon exemple du soutien permanent qu'elle apporte à l'orchestre avec ses ponctuations acérées, ses surlignements et ses commentaires en notes tranchantes, sous la férule de Quincy Jones qui fait les arrangements. En 1956, le futur producteur de Michael Jackson dose à merveille les ingrédients que Louis Jordan avait mis en place quelques 8 années auparavant dans un cocktail explosif qu'il restitue avec maestria.
the other night. We did up the town and we saw some crazy sights. The first stop was Joe's on the basement floor. What used to be Joe's ain't Joe's no more. We started cat scratching. We started cat scratching. Blind as a bat, but still didn't wanna go home. My gal got upset and we had to leave that place. Talking about scratching was a bad disgrace. I quit my friends and went to Mabel's for a sip. Don't have to tell you what happened on that trip. We started cat scratching. We started cat scratching. Blind as a bat, but still didn't want to go home. Old Elmo cried, let's do him up again. But all the action fell on my lady friend. Lulu was beating up her chops and talking back. She sang out some jive my chick didn't like. They started cat scratching. They started cat scratching. Blind as a bat, but still didn't want to go home. Gave him up and I heard that jailhouse ring. I ran downtown to the judge and asked him, what did he do? He said, he was crawling around Main Street like a tiger in a zoo. He started cat scratching. He started cat scratching. Blind as a bat, but still didn't want to go home.
De son changement de maison de production, Louis Jordan renouvelle son orchestre en 1956 avec des figures de proue du jazz de la côte ouest et confie à Quincy Jones, ancien trompettiste de Lionel Hampton, le soin de revisiter ses grands succès pour la marque Mercury. Le résultat donne une musique pleine d'énergie, comme on vient de l'entendre, bien dans l'esprit du blues traversé par le swing que pratiquait Louis Jordan dans une transposition des arrangements hérités des big bands et leurs riffs percutants. Mais surtout, sur un soutien de piano omniprésent, Quincy Jones dose à merveille la coloration sonore apportée par deux instruments vedettes, le sax ténor à la grande puissance émotionnelle et la guitare électrique, qui devient un instrument beaucoup plus modulable avec l'amplification. Tout au long d'une quinzaine d'enregistrements, il confie au guitariste Mickey Baker, très demandé dans les studios, le soin de faire valoir l'éventail expressif de son instrument et lui concocte des arrangements conçus pour mettre en valeur sa guitare. Du soutien rythmique aux riffs transposés au piano, des accords incisifs qui transpercent l'orchestre aux commentaires surlignés, sa guitare s'érige comme une voix prépondérante et s'affirme comme un instrument primordial. Musicien très recherché dans les studios, Mickey Baker avait participé 3 ans auparavant aux sessions historiques de Ray Charles pour la marque Atlantic en 1953, avec notamment 2 fameux blues, Lost in Hand et Sinner's Player, emprunté au grand guitariste de la côte ouest, Lowell Felson, entre parenthèses, un des premiers employeurs de Ray Charles. Il restitue avec brio ce style, le style de la West Coast, qu'il s'était approprié par la fréquentation des disciples de T-Bone Walker qui sont à l'origine de sa vocation. Arrivé de New York où il s'était mis à la trompette pour jouer du jazz, Mickey Baker se laisse séduire par la popularité du blues dans la baie d'Oakland et par la notoriété de ses guitaristes. Attiré par le bebop de Charlie Parker, il se convertit au style minimaliste et efficace de Pee-wee Creighton, disciple de T-Bone Walker. Cette influence, au croisement du jazz et du blues, conditionne désormais son approche de l'instrument et il tracera la voie au guitariste rock, comme nous le verrons dans la deuxième partie de l'émission avec la playlist. Lorsqu'il arrive en Californie au début des années 50, T-Bone Walker, devenu la référence des guitaristes, a mis en place son nouveau concept dont nous avons parlé dans une émission précédente. Mais jusqu'à son tout premier enregistrement sous son nom, c'est-à-dire en 1947, il avait dû ronger son frein comme sideman dans de petites formations de jazz. Et pendant ce temps, Louis Jordan, sur la côte Est, intégrait à son groupe le 6e membre de son Timpani Five, un contrebassiste venu à la guitare électrique, Carl Hogan. Son nom est resté attaché à quelques introductions particulièrement réussies, dont en 1946, celle de Read, Pete and Gone.
And gone. What a babe, she's the tops. When we go out, they don't need no traffic cops. One look at her and the traffic stops, cause she's real petite and gone. Now I could have my pick, you know, cause I got dough that's ready to go. But this chick's so mighty fine, she got me all tied up like a ball of twine. When I do things, I do them right. I won't ever let my baby out of sight. We'll tie the knot and tie it tight, cause she's real petite and gone. That chick has changed my attitude whenever I gaze on her pulchritude. I'm telling you, Jack, she's so mighty fine. She got me all tied up like a ball of twine. Those other chicks leave me cold. You can't compare brass with 14 karat gold. After they made her, they broke the mold. Cause she's real petite and gone.
Petite and gone, avec un petit mot en français, petite, faut-il le dire. Traduction approximative, la fille la plus douce de la ville. Tout un programme qui l'année suivante sera le thème titre d'un film dont Rhys Jordan sera l'une des vedettes, c'est dire la star qu'il était devenu grâce à l'immense audience dont il bénéficiait. Au cours de cette année 1947, il récidivera dans d'autres longs métrages comme Look Out Sister ou Beware et multipliera les hits. Ces films auxquels les enregistrements du chef donnent leur titre sont tout à sa gloire. Il est soigneusement mis en avant devant l'orchestre et occupe l'espace scénique lorsqu'il chante ou prend un solo de saxophone. On distingue par moments Carl Hogan avec sa guitare à l'arrière-plan, mais c'est une guitare acoustique qu'il a, et son introduction magistrale de Read, Petite and Gone, que nous venons d'entendre, a disparu de par les choix scénariques. Il faut croire qu'il avait été convaincant, car il avait été recruté par défaut pour remplacer un bassiste pressenti par Rhys Jordan, mais retenu au sein des forces armées américaines. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et au moment où, sur la côte ouest, T-Bone Walker mettait en place son style comme invité au sein de petits groupes de jazz, Carl Hogan délaissait la contrebasse pour devenir le sixième membre des Timpani Five comme titulaire de la guitare électrique. Originaire du Piémont des Appalaches, sa famille avait migré de sa Géorgie natale à Saint-Louis dans le Missouri et très jeune, il intègre comme bassiste et guitariste les tournées d'un de ses territory bands qui sillonnaient le Middle West au sein de la formation de Jeter Pillars. C'est ainsi qu'il s'est familiarisé avec ce jazz qui donnait des versions orchestrales du blues avec notamment le recours aux formules mélodico-rythmiques des riffs que Count Basie portera à sa quintessence. Servi par les arrangements de Will Bill Davis, pianiste de l'orchestre et bientôt précurseur de l'orgamon, Carl Hogan installe sa guitare en introduction ou en conclusion des interprétations et trouve des interstices pour apporter sa couleur sonore, à moins qu'il ne tisse des entrelacs avec le piano dont son instrument occupe une partie de l'espace musical. Nous n'en sommes pas encore au rôle impérial que connaîtra la guitare avec le rock'n'roll, mais l'instrument s'installe progressivement dans le paysage sonore. Il constituera bientôt avec le sax ténor et aussi l'orgamon un cocktail détonnant qui fera fureur dans les années 60 avec le trio Jimmy Smith, Stanley Turrentine et Kenny Burrell à la guitare. Nous n'en sommes pas encore là lorsqu'en 1946, dans l'une de ses introductions, Carl Hogan dégaine un riff extraordinaire, héritier direct de son immersion dans l'univers musical du Middle West de ses débuts. Parmi les pionniers de la guitare électrique dans le jump blues, il entrera dans les annales par son ouverture magistrale de Ain't That Just Like a Woman, des phrases musicales emblématiques reproduites avec vénération sans que l'on sache toujours qui en est le véritable auteur. Place maintenant à une page d'histoire signée de Louise Jordan qui décline avec humour et bonne humeur les effets dévastateurs des comportements féminins. Un de ces thèmes qui ont fait son succès sur des compositions très dansantes desquelles émerge peu à peu le fameux rythme shuffle qui, avec le rythme du boogie-woogie, a été l'une des clés de son succès.
Adam, happy as a man could be, to leave got him messing with that old apple tree. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Lot took his wife down to the corner store for a malted. She wouldn't mind her business, boy, did she get salted. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman, they'll do it every time. Samson thought Delilah was on the square, till one night she clipped him for all his hair. Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. Ain't that just like a woman, they'll do it every time. Sure will.
Tout le monde aura reconnu le riff d'ouverture de Johnny B. Goode, popularisé par Chuck Berry, qui définit lui-même ses influences. Un peu de Carl Hogan, un peu de T-Bone Walker et un peu de Charlie Christian. L'impact de Hogan sur les guitaristes rock est ainsi avéré avec ce pionnier de la guitare électrique chez Louise Jordan, entre T-Bone Walker et Charlie Christian. Vous êtes sur CFM Radio pour votre rendez-vous mensuel du swing, l'essence du swing dans tous les sens, avec les Guitar Killers qui s'affirment sur un instrument désormais amplifié et qui devient prépondérant avant de s'imposer dans le rock'n'roll. Bien oublié aujourd'hui, au-delà de son fantastique riff d'ouverture, Carl Hogan tisse avec les basses roulantes du piano des entrelacs qui sont un modèle du genre. Il a ouvert les portes à beaucoup d'autres qui lui ont succédé, parmi lesquels, venus dans l'orchestre en même temps que le nouveau pianiste et arrangeur, on vira briller une nouvelle étoile de la guitare électrique. Il s'agit de Bill Jennings, qui va être appelé à s'exprimer aux côtés d'un autre Bill, Bill Doggett, au piano. En 1956, devenu un spécialiste confirmé de l'orgamon, il va brillamment initier le trio magique sax-ténor, guitare et orgue dans un tube inoxydable, Honky Tonk. Au moment de l'arrivée du rock'n'roll, il porte à un point une réalisation ultime, le précipité sonore du jazz, du swing et du blues, réunis en magnifiant le patrimoine musical noir américain. Doggett accompagne à lui seul Louis Jordan sur un titre qui s'appelle « Lemonade » avec son orgue électrique qui sonne comme un big band. Recruté comme pianiste pour succéder à Will Bill Davis, il fait la démonstration de ses talents d'arrangeur en poursuivant l'œuvre accomplie par son prédécesseur. Un swing simple et direct, des riffs dévastateurs, une couleur sonore enrichie par les modulations de la guitare qui vient croiser l'apport rythmique du piano. Le concept s'affirme comme une référence obligée pour toute formation qui veut gagner les faveurs du public. Naissent ainsi quelques chefs-d'œuvre, animés du même esprit, dont les guitaristes sont désormais partie prenante. Entre ceux qui arrivent du jazz, comme Mickey Baker, qu'on a entendu au début d'émission, et sont séduits par l'expression minimaliste du blues aux effets dévastateurs, et ceux qui arrivent du blues et sont séduits par les harmonies et les phrases musicales des jazzmen, les spécialistes de la guitare électrique prennent dans la formation de Louis Jordan une place prépondérante. À la faveur d'une absence du titulaire lors d'un concert à Chicago en 1948, Louis Jordan fait appel à un inconnu de 29 ans, originaire d'Indianapolis, comme Wes Montgomery, qui ne tardera pas à arriver sur scène, pour devenir le 7e membre des Timpani Five. Ce guitariste gaucher avait fait ses premières armes au ukulélé avant de démarrer une carrière professionnelle à la radio de Cincinnati en 1937 et jusqu'au milieu des années 40, il enrichit son style ancré dans le blues par des modalités expressives du jazz sous l'influence du guitariste de Fatzweiler, Albert Casey, que nous évoquerons dans notre deuxième partie d'émission. Albert Casey, une figure majeure de la guitare du jazz avant l'arrivée de Charlie Christian et de sa guitare électrique. Pendant les 4 années où il reste dans l'orchestre, Bill Jennings est partie prenante du cocktail de la réussite, bien servi par les arrangements de Bill Doggett qui tient le piano. Écoutons son style fluide et mélodieux dans un morceau de 5 minutes où il joue de bout en bout et où, en l'absence d'accompagnement orchestral, il se livre à un jeu en contrepoint de la partie de piano. Voici enregistré en 1950 Blue Light Boogie, au point de rencontre de la guitare et du piano, une composition qui leur est dédiée.
They did the boogie real slow, with the blue lights way down low. They did the boogie real slow, with the blue lights way down low. To a party with a Bobby Sox. At the party, I really got a shock. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. Started swinging, all she did was rock. Kept on swinging, she said, now listen, Pop, I like to boogie real slow with the blue light way down low. I like to boogie real slow with the blue lights way down low. Shades were down, the chicks were in the groove. I didn't see how those cats could dance when their feet didn't even move. I started swinging, swung my left foot out, kept on swinging. I heard somebody shout, you got a boogie real slow with the blue. You got a boogie real slow with the blue lights way down low. Started rocking, we really had a time.
house was rocking. I almost lost my mind. I couldn't boogie real slow with the blue lights way down low. I couldn't boogie real slow with the blue lights way down low. The folks kept a knocking, kept on coming in. The folks was knocking till it was half past ten. They did the boogie real slow till the blue lights way down low. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. The girls and boys made so much noise, they even had a raid. The only thing those cops could find was ice cream and lemonade. Oh, what a party! I should have stayed at home. Oh, what a party! I was like a chaperone. I couldn't boogie real slow with the blue lights way down low. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. They did the boogie real slow with the blue lights way down low.
Light Boogie, l'orchestre s'est effacé pour laisser la place à deux instruments vedettes à côté du sax ténor, le piano et la guitare. Sax ténor lui-même, Louis Jordan, intègre au cours des années 40 des spécialistes de l'instrument au son rageur et puissant. Ses pianistes arrangeurs, successivement Will Bill Davis et Bill Doggett, lui donneront toute sa place à travers des solos où son expressivité pourra se donner libre cours. Et surtout, ils vont intégrer les guitares électriques avec lesquelles ils devront composer dans tous les sens du terme. Pendant que sur leur clavier, ils se livrent à un tapis roulant de swing, les riffs de l'orchestre sont soutenus par la couleur sonore de la guitare, tantôt incisive dans ses ponctuations, tantôt mélodieuse dans ses commentaires et surlignements. Comme on l'a entendu en début d'émission, l'arrangeur Quincy Jones va faire briller d'un dernier éclat ce nouveau concept sur les chefs-d'œuvre de Louis Jordan. En 1956, il sortait d'une traversée du désert de 5 ans où il n'avait plus enregistré, s'étant fourvoyé dans la mise en place d'un big band au moment où les grandes formations n'étaient plus d'actualité. Un choix paradoxal alors qu'il avait trouvé la bonne formule pour faire sonner son Timpani 5 comme un big band. Au début des années 50, la plupart des petites formations déclineront son concept de musique énergisante, entièrement fondée sur le rythme, avec comme fer de lance le saxophone, la guitare électrique et le piano. Nous en aurons un exemple au cours de notre playlist dans la deuxième partie de l'émission. Et pour clore cette première partie et élargir le champ que va développer la playlist, voici la musique explosive de Louis Jordan, enregistrée en 1950 à New York. L'organiste et arrangeur Bill Doggett et le pianiste Bill Jennings sont à l'œuvre.
It's a great, great pleasure and a great, great, great big thrill when you got your baby and a whole lot of time to kill. Did you ever get a feeling that your feet had turned to stones? Do you ever get a feeling that your feet had turned to stones? Do you get a funny feeling running up and down your bones? That's rheumatism. Big thrill when you got your baby and a whole lot of time to kill. Did you ever feel lucky and wake up cold in hand? Did you ever feel lucky and wake up cold in hand?
fine. You ain't got a nickel and your woman's got another man. Bad deal.
Dernier feu de Louis Jordan avant sa traversée du désert avec des riffs dévastateurs, les prémices d'une association qui va faire fureur, celle de l'orgue et de la guitare, avec un solo très lyrique de Bill Jennings qui se développe sur les vagues mouvantes de Bill Doggett, pionnier de l'orgue à monde. C'est avec ce morceau au titre évocateur, It's a Great, Great Pleasure, eh bien, tout le plaisir était pour nous évidemment, et c'est avec ce thème donc que se termine notre première partie d'émission. Vous êtes sur CFM Radio et vous écoutez les sens du swing dans tous les sens. Une heure de swing avec Mr. Lucky, consacré aux guitaristes de Louis Jordan, les pionniers de la guitare électrique en petite formation. Une guitare électrique dont la place dans le quartet jazz apparaît aujourd'hui tout à fait normale. Notre petit point d'actualité de milieu d'émission vous propose deux concerts dans le cadre de Jazz en Mars, organisés par le cabaret dancing Stiletto à Saint-Lieu-les-Lavaures, à proximité de l'autoroute, tout près de Saint-Sulpice, sur Tarn. En allant sur le site cabaret-stiletto.fr, vous découvrirez à l'affiche un premier concert vendredi 3 mars à 20h avec Yann Quartet et un deuxième le 17 mars avec Chamad. Toute la programmation est en ligne avec notamment une revue de music-hall intitulée « Femmes, trois danseuses extraordinaires ». Nous revenons maintenant aux Guitar Killers, le thème de notre émission, pour suivre dans la playlist qui s'annonce leur évolution en dehors du contexte jordanien. Louis Jordan, en effet, va connaître une éclipse, mais le concept qu'il avait créé va perdurer, notamment chez les musiciens de jazz démobilisés après la victoire et sans travail. Avec la fin des big bands, ils vont se reconvertir dans la musique simple et directe des petits groupes dynamisés par le swing. Et en 1948, le pianiste et arrangeur Edgar Hayes rencontre Teddy Bunn, qui s'était mis à la guitare électrique dès 1940 avec Lionel Hampton. Au cours d'une séance d'où émerge une interprétation baptisée Tempo and Swing, il fait sortir avec créativité la guitare du blues pour l'introduire dans la sphère du swing, comme le titre du morceau l'indique. Il disparaît ensuite de la scène musicale et tombe dans l'oubli lui aussi. Mais il réapparaît en Californie au tournant des années 50 avec la petite formation justement du pianiste et arrangeur Edgar Hayes. Nous conclurons cette première séquence consacrée à Teddy Bunn avec un titre enregistré sous son nom et tout de suite l'association du piano et de la guitare électrique dans Edgar Boogie. Thank you. C'était la résurrection, et quelle résurrection, de Teddy Bunn, revenu sur le devant de la scène avec la grande vogue du blues and swing des petites formations dynamisées par Rich Jordan et aussi T-Bone Walker. Cette nouvelle donne a libéré les énergies contenues par les grands solistes de la guitare de l'ère pré-électrique, comme Lonnie Johnson, dont nous avons déjà parlé ici, et Teddy Bunn, qui avait lui aussi animé les sessions de Duke Ellington et aussi de Lionel Hampton. Alors qu'elle se signale par l'introduction du feeling du blues dans le développement soigneusement construit du jazz, l'effervescence musicale de la fin des années 40 verra apparaître des guitaristes venus du jazz, séduits par l'efficacité expressive du minimalisme du blues. Très demandé dans les studios comme Sideman, Mickey Baker accompagnera la puissante chanteuse Big My Bell, qui annonce la soul et surtout plusieurs pianistes de boogie-woogie où son invention mélodique et ses riffs incisifs donnent au roulement de piano une puissance explosive. Nous poursuivrons avec deux interprétations de son groupe, les House Rockers, mais tout de suite en compagnie d'Albert Casey, que nous avons évoqué tout à l'heure, un guitariste de l'ère pré-électrique comme Teddy Bunn et Lonnie Johnson. Voici, associé au pianiste Sammy Price, Mickey Baker, qui prend le deuxième solo de guitare. Une magnifique démonstration de blues jump guitar avec Livy. des années 50, Mickey Baker avait initié un style de guitare qui inspirera les rockers. Mais il ne sera pas reconnu comme créateur à part entière de cette nouvelle musique. Il migrera en France, où ses compétences musicales, comme celles de manager et de pédagogue, vont être mises à contribution, tenez-vous bien, pour le lancement des jeunes stars du yéyé. Il conseillera ainsi Sheila et Sylvie Vartan. Quel professeur! Mais il s'intéressera aussi aux auteurs, compositeurs, interprètes et poussera Colette Mani, pour ceux qui s'en souviennent, vers le blues. Il lui écrira par exemple un de ses hits, Mélocotone. Dans la version qu'elle enregistre de St. James Infirmary, il reprendra la trompette pour faire l'introduction avec la sourdine Wawa. Il terminera ses jours à Montastruc-la-Conseillère, pas très loin de chez nous, non sans avoir accompagné des jazzmen et bluesmen de passage dans les grands festivals comme à Montreux par exemple. Bill Jennings, quant à lui, ne sera pas auréolé de la gloire acquise sur la scène des festivals, mais il aura à son actif d'avoir contribué à mettre en place les fondements de la guitare soul. Son jeu intériorisé, tout en profondeur, qui s'exprime avec simplicité et décontraction, fera merveille dans l'accompagnement des organistes qu'il avait connus chez Louis Jordan, Will Bill Davis et Bill Doggett. Mais ce sont les premiers disques de Brother Jack McDuff à l'orgue qui ont révélé un style dont Grant Green, qui lui succédera, saura s'inspirer. L'association de l'orgue et de la guitare provoquera un précipité sonore qui restitue les traits identitaires de l'expression musicale nord-américaine. Il faut y ajouter le sax ténor tenu ici par Willis Jackson. C'est sur une configuration qui va faire connaître au jazz sa période de la plus grande popularité que notre page mensuelle du swing se tourne. Dans les années 60, de grands guitaristes vont s'exprimer pleinement dans un contexte de formation réduite, parfois sans contrebasse ou même sans batterie, grâce à la puissance émotionnelle et rythmique que génère leur instrument, magistralement soutenu par toutes les nuances mélodiques de l'orgamon. Une nouvelle couleur sonore, un sens du swing que l'on appellera groove, une formule qui, pour les pionniers du genre, a pris naissance dans l'exercice du swing chez Wiz Jordan, au cours duquel on a vu poindre de nouveaux sons et de nouveaux rythmes. Les sens du swing, consacrés ce mois-ci aux Guitar Killers, se referment provisoirement. Vous pouvez le refaire en téléchargeant les émissions antérieures sur cfmradio.fr avant de s'immerger dans un univers sonore complémentaire et indissociable, celui de la guitare jump associée au clavier, piano ou orgue.